Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Aujourd'hui, je reçois Jamal, l'hôte du podcast Jeans, qui est le premier podcast sur la sexualité, le genre, le féminisme et l'amour pour les personnes arabes et ou musulmanes. Jamal est militant pro-féministe, antiraciste, scénariste, réalisateur, journaliste, conférencier et intervenant à l'UNESCO. Rien que ça. Vous l'aurez compris, Jamal est là pour faire rayonner toutes les singularités en participant à un changement structurel profond. Il est d'un optimisme sans fin et a à cœur de nous partager sa grande ambition, celle de déconstruire les stéréotypes pour mieux reconstruire notre société. Bienvenue Jamal.
Merci beaucoup, je suis très content de pouvoir répondre à tes questions. Merci de l'invitation.
Bah, je suis ravie parce que je suis fan de ton podcast Jeans, qui veut dire sexe en arabe. Je l'écoute depuis les tout débuts et ça m'enrichit vraiment beaucoup. J'en apprends tout plein parce que c'était un pan de la sexualité qui, malheureusement, dans nos études en sexologie, on ne l'aborde pas forcément. Mmh. Et donc, à chaque fois, j'en apprends tout plein parce que tes intervenants, intervenantes ont des discours super passionnants sur la sexualité des personnes musulmanes. Et donc, d'ailleurs, ton podcast, et surtout lors de la saison numéro 1, vise une audience de personnes arabes et ou musulmanes de France et toutes les personnes minorées. Et pourquoi ça t'a semblé important de cibler justement cette audience-là ?
C'est essentiel parce que pour moi, c'est une question de représentation, tout simplement. Mon but, ça n'a jamais été vraiment la gloire ou la célébrité avec ce podcast. Mon but, c'est vraiment que les personnes qui ne se voient jamais à l'écran ou en podcast puissent se sentir écoutées avec des contenus gratuits qui sont hyper documentés, qui parlent d'elles et d'eux et d'elles, pour dire qu'ils existent, on les voit... ils comptent, qu'eux aussi ont le droit, qu'eux aussi sont légitimes. Et je savais que c'était un public cible très niche. J'ai jamais vraiment visé le quanti avec ma communauté, mais en fait, elle est super quali, ma communauté, parce qu'ils sont... Voilà, il y a plein de personnes qui sont ultra engagées, en fait, dans cette pensée-là. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Ça fait plaisir à voir. Puis, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur pour moi, parce que parler de sexualité, de rapport non pénétratif, d'homosexualité, de travail du sexe, de transidentité, etc., de colonialité, toutes ces choses-là, c'est boum dans la tête des gens. Et ça bouleverse, ça dérange, mais surtout ça questionne, ça menace l'ordre établi. Donc, c'est pas forcément en vogue de tout le temps perturber. On peut pas accroître une communauté beaucoup trop puissamment avec que du subversif. Donc moi, je voulais personnellement secouer les évidences construites par les stéréotypes ou par les archétypes d'ailleurs qu'on construit sur les personnes musulmanes, racisées en général. Le principe de ce qu'est une femme arabe au lit, ce que doit avoir un homme noir pour être sexuellement attirant, ce que l'islam dit sur les personnes queer, etc. Du coup, c'est venu pêcher beaucoup de personnes finalement, assez rapidement. Et de rien, j'ai bâti une petite communauté de personnes qui, encore une fois, qui n'est pas immense, mais qui est extrêmement qualifiée. Il y a 8000 abonnés sur Instagram, il y a plus de 200 000 écoutes. Donc c'est déjà super, mais ça veut dire que les gens ont vite commencé à écouter un épisode, puis un autre. Une fois qu'on rentre dans Jeans, on se dit « Ah, il y a plein d'aspects qui sont vraiment différents qu'on voudrait aborder ensemble, et puis ça, ça m'intéresse, puis ça, ça me concerne, même si je ne suis pas une personne arabe, ou même si je ne suis pas une personne musulmane. » Il y a vraiment un truc de comment « how we relate to a story », quoi. Dit en anglais, c'est vraiment… comment on peut s'associer à une histoire qui nous concernerait même si on ne se sent pas s'identifier aux mêmes identités que la personne. Et c'est marrant parce que voilà, il y a aussi la question de l'écoute en cachette que j'avais déjà abordée auparavant. J'ai des amis marocains qui ont surpris leurs parents en train d'écouter Jeans en cachette dans leur chambre alors qu'ils dénonçaient l'initiative quelques heures auparavant. Donc je me suis dit que Jeans, c'était comme une nouvelle sorte de porno qu'on écoute en cachette.
Et qui fait du bien quand même.
Qui fait du bien quand même, voilà, c'est ça. Exactement, voilà.
Oui, je me souviens dans un épisode où tu racontes ça et je trouve ça chouette, en fait, finalement, parce que tu disais c'est une audience niche, mais ça touche pas... Enfin, ça touche, en fait, finalement, quand même pas mal de monde. Et même si on se dit, OK, je suis pas une personne musulmane, c'est quand même pertinent et intéressant, comme tu dis déjà, de parler croyances, de ce qu'on se dit... de ce qu'est une sexualité d'une personne musulmane et du coup plein de clichés autour de ça. Et puis aussi tu disais s'il y a des parents qui écoutent, ça touche aussi pas que les jeunes, il y a aussi les moins jeunes, nos parents, etc. Et par contre ça reste quand même quelque chose de tabou de ce que j'entends puisque on l'écoute en cachette. Et à ton avis, est-ce que ça vient du sujet de la sexualité et ou est-ce que ça vient justement de la sexualité plus précisément pour les personnes musulmanes ?
Ça vient évidemment du sujet sexuel parce que c'est un énorme tabou dans la société arabe et ou musulmane en général, en terre d'islam. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire haut et fort forcément, c'est des choses qui sont assez vite censuré à la fois. Enfin, c'est un imaginaire qu'on a véhiculé comme ça, mais à la fois, on parle de sexe partout, tout le temps. En fait, c'est tellement quelque chose qui est tabouisé que c'est devenu quelque chose de quotidien qu'on doit tabouiser, qu'on doit détabouiser. Une bataille comme ça, même au niveau légal, de savoir comment on peut mettre fin aux lois qui sont liberticides concernant les libertés sexuelles. Au Maroc, par exemple... Là d'où je viens, mais il y a aussi une phase très forte en France de cette sexualité qui ne se dit pas. Ça fait assez, en fait, c'est que assez récemment qu'on a commencé à parler de sexualité féminine aussi grandement, que les comptes Instagram se sont multipliés, que la sexologie n'est pas devenue aussi tabou qu'avant, qu'on découvre le clitoris et ses joies. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui avance de ce côté-là, qui n'est pas imputable qu'aux cultures arabo-musulmanes. Je pense que c'est ça qu'il faut préciser et souligner, c'est que il y a un tabou clair, qu'il y a une sorte de honte sociale qui émerge de ce mot, jean. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais le dire comme titre, que ça se dise partout dans toutes les oreilles. Voilà, c'est sexe, quoi. Il y a pas, on tergiverse pas, c'est vraiment le sexe dans toutes vos oreilles. Mais pas de manière ni pornographique, ni vulgaire, ni offensante. C'est vraiment remettre le sexe au centre comme étant quelque chose de non tabou. Voilà. Je pense que c'est ça qui était pour moi le plus important, parce que finalement, ça se fait caché par ce tabou-là qui n'a pas vraiment de sens, puisque en fait, quand les femmes vont même, elles parlent de sexe, quand les hommes sont entre eux, ils parlent de sexe, ils n'en parlent pas de la même façon, bien sûr, mais en fait, il existe ce sexe-là, il existe, qu'on le veuille ou non, qu'il soit caché ou visible, il existe, et puis les gens le font aussi, tout le monde le fait, y compris les personnes musulmanes.
Ah oui, tiens, c'est étonnant. Ouais. Non, mais comme tu dis, tout le monde en parle. Et par contre, dans ton podcast, c'est surtout apporter une pensée, une réflexion par rapport à la sexualité. Tu disais, tu veux secouer un petit peu les personnes et leur permettre d'apporter peut-être une nouvelle réflexion vis-à-vis de leur sexualité ou de la sexualité de manière générale. Et comme tu dis, c'est pas du tout d'une manière vulgaire ou haha, on va rigoler en parlant de sexualité. Non, c'est vraiment une approche d'ailleurs sérieuse, universitaire. Et même moi, des fois, je me dis waouh, des fois, il faut quand même s'accrocher en termes de vocabulaire, parce que même moi, alors c'est pas pour faire prétentieux quoi du tout, mais j'ai du mal des fois, même à certains termes, à vraiment comprendre. Donc je me dis, effectivement, c'est une niche, mais ça s'adresse quand même aussi à des personnes qui, j'imagine, ont les outils pour l'entendre et aussi s'approprier ce qui est dit.
Oui, tout à fait. Ça s'adresse aussi aux personnes qui cherchent les outils pour se l'approprier et pour que ça les... alors, je n'irai pas jusqu'à dire de manière prétentieuse que ça pourrait les sauver ou je ne sais quoi, mais je sais qu'il y a des personnes que ça a sauvé sur ce sûr parce que, en fait, c'est une mise à disposition gratuite de contenu extrêmement construit où moi, en fait, je me suis décarcassé pour pouvoir faire ce travail-là, pour que ce soit disponible en 45 minutes maximum avec le plus grand spécialiste de la question sur cette question-là dans l'épisode, avec une bibliographie, une filmographie qui est associée pour que, encore une fois, on se sente plus seul. C'était vraiment le principe de base de Jean, c'est je vais vraiment toucher là où c'est... comment dire, c'est là où on peut, où c'est indiscutable. Voilà, on n'est plus dans un débat d'idées où est-ce qu'on est pour ou contre les personnes trans. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le sujet en fait. On n'est pas là à devoir accepter ou décliner une invitation à parler de son avis sur son opinion sur les personnes trans, etc. Non, elles existent, elles brillent, elles vivent leur vie. Voilà, on arrête de les percevoir d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça aussi que je fais sur. Tout, en fait, sur tous les volets, que ce soit sur le volet racial, sur le volet religieux, sur le volet culturel, tout simplement. Voilà, c'est hyper... Le volet du handicap, bien sûr, le volet de la sexualité en particulier. Et je pense que c'est, voilà, c'est hyper important de rappeler ces choses-là parce que c'est faire ce que moi j'appelle l'éloge de la nuance. C'est constamment rappeler les choses... qu'on ne rappelle pas dans les médias, qu'on ne rappelle pas assez même dans l'imaginaire culturel aujourd'hui, c'est vraiment essayer de se dire, bah oui, en fait, un arabe peut ne pas être musulman. Ah oui, c'est vrai que des musulmans peuvent être chiites ou sunnites. Ah, c'est vrai que des musulmans peuvent être blancs et s'appeler Gérard. Ah oui, c'est vrai. Enfin, là. Et donc, ces possibilités-là de la singularité, de la diversité, bien sûr. Voilà.
Ouais. Et dans ton podcast, d'ailleurs, j'adore la question finale où justement tu essayes avec ton invité de déconstruire un cliché que tu as entendu. Et donc, j'avais envie de te demander quels sont les plus gros clichés autour de la sexualité que tu as pu entendre justement.
Alors, est-ce qu'on a 4 heures devant nous?
Alors tu choisis ça.
Ok, non mais en fait déjà, pour moi la question du cliché, il y en a tellement, ça pullule dans ma tête, mais disons qu'on va essayer de choisir selon des points de vue. Parce que si on a des points de vue qui sont intraculturels et des points de vue qui sont extra ou interculturels, disons. Du point de vue intraculturel, c'est-à-dire parmi les personnes musulmanes, eh ben, comme on l'a dit, ils ont une sexualité comme tout le monde. Déjà, il n'y a pas une sexualité musulmane. Elle est aussi purée qu'il y a deux personnes musulmanes. Que ce soit bien clair. Il faut savoir juste que c'est le seul des trois monothéismes qui encourage la sexualité hors procréation. Donc, en fait, quand on relationne avec quelqu'un, il est demandé à ce que l'orgasme soit atteint. Il y a des jurisprudences qui montrent que si la femme n'atteint pas l'orgasme au bout de 4 mois et demi de mariage, à peu près 4 mois et 10 jours, elle peut demander le divorce comme ça en claquant des doigts. Donc, c'est des choses, évidemment, qui sont invisibilisées dans les discours ambiants et des 99% des patriarches religieux pour ne pas vraiment accéder pour conserver ce patriarcat-là. Mais donc, pour avoir une relation sexuelle, il faut quand même contracter un mariage. Je dirais même qu'il faut plutôt avoir une sorte d'engagement entre les deux partenaires comme pour s'assurer du consentement mutuel préalable. Mais du coup, c'est la tradition et le patriarcat.
Le consentement, du coup, il est établi de par le cadre du mariage.
Le consentement, Ça, c'est une énorme question aussi qui est très intéressante parce que ça permet aussi de parler de la question du vel conjugal, de est-ce qu'une fois qu'on s'est marié, c'est bon, ça veut dire que je peux consommer quand je veux. Et il y a un énorme verset du Coran qui parle de « allez-y comme dans un champ de labour » dans le Coran, qui est extrêmement polémique parce que bon, il est mal compris, il est très mal interprété bien sûr, mais c'est repris par le patriarcat. C'est un verset qui dirait en gros jetez-vous-y comme des bêtes, sauf que la compréhension la plus claire du sujet, de manière même étymologique et même ce qu'a rapporté le prophète donc de l'islam sur ces volets-là, c'est ne vous jetez pas sur vos femmes comme des bêtes. C'est justement dans une question de consentement, il parlait même du messager, le baiser, qui devait se trouver entre la sexualité et les mots d'amour et le parfum. Enfin, il y avait vraiment un truc de préliminaire très fort.
Séduction, quoi. Donc c'est ça, c'est intéressant. Aussi
de... Séduction, exactement. On doit constamment séduire notre partenaire selon la tradition, en tout cas prophétique, et évidemment dans le Coran, il ne s'agit pas de pousser les hommes à user du corps des femmes comme ils l'entendent, évidemment. Donc mais c'est important, effectivement, que la question du consentement, qui est quand même une notion assez nouvelle dans le monde moderne, soit redite et réexpliquée à la lumière des textes aussi. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, ce qui est important aussi à rappeler, c'est le fait que le patriarche musulman, il lit les passages du Coran qui l'arrangent. Donc, il y a plein de mariages qui sont contractés pour une nuit ou avec plusieurs femmes. Il peut exiger l'acte sexuel par devoir de procréation. Il peut réduire la femme à des positions sexuelles. C'est-à-dire, si elle est en Amazon ou si elle est au-dessus de l'homme, ben, en fait, ça devient haram. Donc, il faut juste utiliser le missionnaire. Enfin, voilà. Donc, ça peut aller dans ces notions de devoir jusque, comme on l'a dit, viol conjugal, qui peut s'étendre dans cette abomination-là à plein de moments de la vie d'un couple mal informé déjà, et puis où la transmission de la religion, c'est vraiment mal faite.
C'est déformé.
C'est assez... Oui, exactement, c'est déformé. Mais donc, voilà, j'aimerais juste faire attention à ne pas faire de ces phénomènes des espèces de conglomérats de stéréotypes, parce qu'ils existent dans d'autres pays que les pays musulmans, et que, en fait, quand on va, franchement, quand on va dans les souks de Marrakech, quand on va dans les malls de Dubaï, quand on va à la place Taksim à Istanbul, vous allez trouver de la lingerie coquine, des strings à bonbons, des breuvages aphrodisiaques. Les Arabes, ils ont écrit des manifestes sur la sexualité, des poèmes homoérotiques, des traités d'érotologie qui ont choqué l'Occident de tout temps. Voilà, il y a vraiment cette notion-là d'amour, de séduction, de sexualité qui est très, très présente dans la culture arabe, arabo-musulmane, pour le coup. Ça, c'est sur le volet du point de vue vraiment intra-culturel. Sur le volet extra-culturel, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc, pour en sélectionner ces quelques-unes, il y a vraiment cette question-là de fétichisation raciale dans le sexe. Donc, la question de, par exemple, dans les relations homosexuelles, sur Grindr, il y a des rapports qui montrent un homme blanc qui dit à un homme arabe « J'aimerais boire tes liqueurs d'Orient. J'aimerais bien que tu m'encules avec ta bite lubrifiée à la harissa. Je veux me faire exploser le cul comme tu exploses des bombes, des trucs comme ça. Voilà. » C'est hyper trash, hyper violent. Ça rapporte toujours, ça essentialise la personne à un rôle présupposé social qu'il devrait remplir de ce mec de cité, ce mec qui est barbu qui revient de Daesh et qui vient en fait me défoncer. Ça, c'est extrêmement grave, je trouve, parce que ça popularise et ça perpétue les traditions pornographiques qu'on a depuis une vingtaine d'années sur les sites, et ça pullule aujourd'hui, ça fourmille de nouveaux contenus là-dessus. Pour les personnes qui sont hétérosexuelles, j'ai eu des témoignages de mecs cis blancs qui me disaient « J'adore les femmes arabes parce qu'elles sont super sexy. Je n'aime coucher qu'avec des beurrettes parce qu'en fait, elles font leur mijaurée, mais en fait, au pieu, elles sont chaudes. Moi, j'adore parler à... j'aime bien les femmes noires, mais qui sont musulmanes parce qu'en fait, c'est des tigresses au lit et elles se mettent des bouboules à journée. » Enfin, il y a vraiment des gens qui disent ce genre de choses de manière impunie et de manière posée, genre sans voir qu'il y a un problème. Il y en a même un qui m'a dit « J'adore ma femme Parce qu'à chaque fois qu'on a envie que ça se passe, qu'on a envie d'un moment de sexe, elle me fait la danse du ventre avant de coucher ensemble. Non, il y a un problème. Donc en fait, pour résumer, il y a vraiment une question très forte dans le point de vue interculturel quand on voit la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes, qui est réduite à des stéréotypes très forts sur l'homme qui est violent au lit, qui probablement est violeur, que ça excite, voilà, et qu'il y a un truc de violence très forte, et la femme qui, elle, doit soit se dérober au regard avec son voile et comme dans un effet bonbon, il faut déballer le voile pour y voir à la fin la séduction incarnée, etc. Soit on va avoir une femme qui est lubrique, qui a ensorcelé ce jeune homme blanc qui n'a rien demandé, mais en fait, comme elle a chanté, elle a dansé, ben, du coup, il est tombé sous son charme, et c'est à cause d'elle, la sorcière, voilà. Donc déjà, tout ça, non. Moi, je dis simplement, voilà, pour conclure, qu'il faut arrêter de tout dévoiler, il faut arrêter de voiler, il faut arrêter les archétypes autour de l'arabe, de la rebeu, de la beurette, tous ces mots-là, en fait, elles ne sont pas vos beurettes. Il faut éliminer ce mot du vocabulaire, c'est dépréciatif, c'est diminutif. C'est révélateur d'histoires d'oppression tellement puissantes, tellement blessantes. Ça emprisonne beaucoup, exactement. Donc, il faut arrêter avec cette bestialisation aussi, même des corps noirs, bien sûr, le fait qu'un homme noir doit avoir une grosse bite, que les femmes noires sont des, je cite, sauvageonnes ou des panthères noires. Voilà. Ou je veux un homme avec une bite de chameau. Enfin,
très
tout ça, c'est pas drôle. Ouais, c'est hyper animalier, exactement, c'est un bestiaire de la sexualité finalement, tu vois, c'est vraiment un truc où on est à la fois la petite rose des sables, une vipère, tu vois, je vais montrer mon anaconda et il faut avoir une bite de chameau, et toi tu es un pur sang arabe comme les chevaux, donc tu es le taureau du Maghreb, enfin, il y a vraiment ce bestiaire-là qui est très très fort et très puissant et c'est insultant, c'est même pas excitant, c'est juste du racisme sexuel.
Ouais, c'est insultant et de l'autre côté, pour les femmes, ça peut même être effrayant justement aussi ce vocabulaire animalier, même s'imaginer du coup que le pénis de l'homme est gros et immense, ne pourra jamais rentrer dans le vagin. Et donc en consultation justement, je reçois pas mal de jeunes femmes qui souffrent de vaginisme, qui est la possibilité, voire la très grande difficulté de pouvoir avoir du sexe pénétratif, donc généralement pénis, vagin, ou voire même s'il y a des sextoys, ou les doigts, ou même les tampons, etc. Et dans une très grande majorité des cas, ce sont quand même des personnes, des femmes musulmanes. Et il semblerait que du coup, le rapport au corps et au plaisir, de façon déjà de manière générale, pour un ensemble de femmes dans ce monde moderne, c'est très difficile, et ça semble encore plus difficile des fois dans le monde arabo-musulman. Comme tu disais, ton podcast Sauve est une aide précieuse pour les personnes qui l'écoutent. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes qui ont ces représentations-là de par tout ce qui est dit, les images véhiculées, les clichés, et qui souffrent dans leur sexualité, dans leur corps, dans leur chair? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre ou quelque chose?
Oui, bien sûr. Alors, sans aucune sorte de paternalisme ou de substitution à leur opinion, parce que je pense que c'est pas ma place du tout de parler à la place des femmes qui libèrent justement ces femmes-là. Mais ce que je peux dire de mon côté, c'est que dans le monde arabe, évidemment, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est un constat. Le corps des femmes est vécu comme dangereux parce qu'il est tentateur par nature. C'est-à-dire que dès qu'il se dévoile un tant soit peu, ça commence à devenir lubrique pour l'homme qui, en fait, réduit un espèce d'animal soumis à ses pulsions, qui ne peut pas s'empêcher de sauter sur la femme parce qu'elle serait dénudée ou elle aurait une mèche de cheveux qui dépasse. Donc ça, le corps qui doit être caché, enfermé, pour éviter que les hommes ne cèdent à des pulsions sexuelles plus fortes que leur volonté, c'est pas de leur faute, elle n'avait qu'à pas s'habiller comme ça, et puis qu'est-ce qu'elle vient faire dans la rue aussi tard, etc. C'est vraiment enfermer donc ce corps-là, que ce soit dans le privé comme dans l'espace public. Mais après, encore une fois, ce n'est pas délimité au monde arabo-musulman. Au-delà des mecs, ce sont les patriarcats d'État qui peinent aussi à céder des droits à égalité et qui préfèrent garder le contrôle des corps, de la reproduction, de la sexualité des femmes. Donc, en France, par exemple, la sécularisation progressive, bien que partielle, de la société, elle a permis des avancées indéniables sur le droit des femmes, bien sûr, mais la domination masculine, elle est partout. Et l'écrasante majorité des femmes françaises, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, elles ont subi une forme d'harcèlement de rue au cours de leur vie, Au-delà des corps des femmes, il y a le corps des hommes arabes qui veulent tous être virils, qui sont barbus, poilus, forts, etc. Et cette hypervirilité-là, elle est toxique parce que c'est vraiment le poison de notre société aujourd'hui. C'est cette haine du féminin qui se mêle à l'amour du féminin. C'est-à-dire, on vous désire, mais on vous hait. On a envie de vous cracher dessus et en même temps de vous embrasser. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le poison de notre société aujourd'hui. Et je pense forcément que certaines femmes peuvent se renfermer ou littéralement se fermer aux rencontres amoureuses et sexuelles. Parce qu'elles sont, donc tu parlais de vaginisme, pour moi c'est vraiment cette symbolique-là très forte pour ces femmes-là, parce qu'elles sont, c'est des rencontres qui sont exercées sous le signe de la puissance phallique, c'est vraiment cette nécessité naturelle de l'ordre social qui doit leur imposer ça. Et en fait culturellement, le vaginisme en terre d'islam, ça peut être associé soit à une frigidité de la femme, mature, vieille, ridée, fripée, etc. Donc vraiment dans un stéréotype de la sorcière qui est passée de date, qui est périmée, très très dure, soit une sorte d'ensorcellement de la jeune femme, ce qu'on appelle au Maroc tsqaf ou en Tunisie tsafseh, c'est un rituel de cadenassage. C'est comme si on mettait un cadenas sur le sexe de la femme et que ça pouvait plus rentrer en fait. Donc ça tombe même hors de l'espace religieux, puisque ça devient l'espace de la sorcellerie, et donc c'est vraiment à l'opposé de ce que le Coran préconise et relève. Et donc on arrive là dans un espace-temps de spiritualité où la femme, elle aurait un vaginisme, parfois elles ont une dyspareunie aussi, c'est un peu plus différent, mais après ça déloge une fois de plus la capacité, voilà, les douleurs exactement, plutôt du côté du code de l'utérus, mais en fait, le tsqaf et le vaginisme, c'est vraiment les contractions du vagin qui vont venir empêcher l'arrivée d'une pénétration quelconque, que ce soit digitale, pénien ou d'un objet. Et après, ça dérange une fois de plus la capacité de la femme de disposer librement de son corps et de décider pour elle-même, en fait. C'est ça, je pense, qui est le plus important... À rappeler, c'est qu'elle. Moi, le message que je voudrais donner, c'est évidemment, moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant qu'homme allié à cette cause féministe qui m'anime depuis toujours, c'est qu'elles se réapproprient leur corps, que seules elles peuvent savoir comment elles peuvent se réapproprier, que je n'incite pas à une débauche particulière, mais je peux leur dire touchez-vous, voilez-vous ou non, dévoilez-vous, caressez-vous, investissez votre corps, prenez soin de ce corps, et puis aussi, lisez des livres féministes, lisez le Coran, écoutez Jeans aussi. Voilà, c'est ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut réinvestir son corps, il faut se le réapproprier. Et voilà, j'essaie de dire ça avec le moins de mansplaining possible parce que c'est pas du tout ma position. C'est toujours délicat. Ouais, c'est toujours délicat, mais c'est juste ce que je souhaite pour elles, parce que moi, ce que je combats, c'est pas leur ignorance de leur corps. Ce que je combats, c'est le patriarcat qui leur fait. Qui leur a institué un régime, une institution systémique qui fait qu'elles ont moins conscience de leur corps. C'est ça qui est le vrai combat.
Et puis tous les messages en fait, qui ont été reçus par elles aussi, de part et d'autre. Tu parlais du cadenas, un cadenas fermé, le vagin est un cadenas fermé. Mais ça, est-ce que ça ne vient pas non plus de ce concept tant sacré de la virginité, de l'hymen, ouais. De garder l'hymen intact. Et d'ailleurs, je ne sais plus si tu l'avais interrogé, Mona El Taoui, qui a écrit un livre justement qui s'appelle « Foulard l'hymen ».
Alors, c'est en cours. Ah. J'espère, c'est en cours, mais voilà.
Ok, oui. Donc elle a écrit justement un livre qui s'appelle, enfin en anglais c'est Headscarves and Hymens, où ça montre vraiment cette association aussi foulard-hymen, comme quoi aussi cette notion de hymen et de garder cet hymen intact, qui est signe de la virginité, qui la virginité est un concept... inventé aussi et basé en fait finalement sur rien en fait, puisque on peut aussi naître sans hymen, on peut perdre son hymen au fur et à mesure de son enfance, enfin du coup c'est un concept qui repose sur rien sauf sur la peur, effrayer justement les femmes, et là dans ce cadre là les femmes musulmanes et arabes, de garder vraiment leur corps et surtout leur sexe et leur vagin intact jusqu'au mariage. Et du coup quand elles se retrouvent mariées et que souvent la nuit de noces, elles commencent à paniquer parce que du coup elles se disent mais j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais parce qu'on a cadenassé votre corps pendant des années, et soudainement il faudrait s'ouvrir comme ça du jour au lendemain, c'est presque impossible pour certaines.
Tout à fait, oui, ça c'est ultra important de le dire évidemment, c'est toute cette logique qui n'a rien, mais absolument rien, ni de religieux, ni de prophétique, dans le sens du prophète Mohammed, c'est pas du tout un truc qui est en rapport avec le religieux, c'est un truc qui est en rapport avec le patriarcat, au plus haut point, qui a en fait été immiscé dans le pouvoir depuis 14 siècles, en tout cas je parle vraiment du point de vue arabo-musulmans, mais en fait ça l'est aussi très fortement en France et dans les pays occidentaux à différents types de mesures, mais l'hymen c'est devenu comme le capital symbolique de la valeur d'une femme et en fait c'est ce que j'arrête pas de répéter avec mes intervenants et intervenantes, c'est il faut arrêter de loger l'honneur d'une famille autour du sexe entre les jambes d'une femme. Ça, c'est vraiment capital, parce que ce sacro-saint hymen, c'est un bout de peau qui, comme tu l'as très bien dit, peut exister ou ne pas exister à la naissance, qui peut être perforé plus ou moins, qui peut, quand il sera perforé, saigner ou pas. Enfin, il y a vraiment différents types de façons. Et chaque corps féminin, ou en tout cas qui est doté d'un vagin et d'une vulve, ben, en fait, a une certaine forme d'hymen particulière. Et en fait, loger ce capital de virginité, qui est un concept complètement absurde, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire la virginité ? On a juste aussi défini la virginité comme cette chose qui est qu'on pénètre avec un pénis une femme par sa vulve puis son vagin, voilà. Et qu'est-ce qui dit que la virginité, ce ne serait pas la pudeur ? Qu'est-ce qui dit que la virginité, ce ne serait pas, en fait, si on embrasse, ben, peut-être que c'est aussi un peu perdre sa virginité ? On ne sait pas. En fait, c'est juste culturellement qu'on construit la façon d'aborder la relation sexuelle. Et en tout cas, ce qui est problématique, c'est qu'elle vient faire loger la valeur d'un corps et donc aussi d'une âme dans quelque chose qui est de l'ordre du biologique, sans aucun sens, qui fait reposer une civilisation entière là-dessus. Et ce qui fait aussi des travers énormes. Parce qu'au-delà du vaginisme, il y a aussi le phénomène qui est très répandu dans le Maghreb, par exemple, de la pénétration anale comme substrat de relations sexuelles dans une rencontre qu'il y a entre une jeune femme et un jeune homme, par exemple, pour qu'elle se préserve son hymen, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque c'est d'ailleurs la seule chose qui est vraiment interdite dans la jurisprudence islamique en termes de sexologie, c'est la pénétration anale qui est interdite. Donc en fait, je veux dire, on est en train de faire des choses qui sont, en termes d'islam,
pardon, je te coupe. Elle est, du coup, ouais, c'est ça. Il y a deux interdits dans l'islam. Il y a la pénétration anale et pénétration vaginale après l'accouchement, c'est ça, quand il y a des saignements aussi. Surtout quand il y a des saignements, voilà. Donc les règles ou juste après l'accouchement. Oui. Mais du coup, ça voudrait dire que là, et c'est vrai qu'on l'entend souvent même en consultation, que voilà, on est resté vierge jusqu'au mariage. Et finalement, quand on interroge, bah, y a eu plein de pratiques sexuelles, même avec pénétration anale, mais pas pénétration vaginale. Donc, ça veut dire qu'on est encore vierge, entre guillemets. Mais ça voudrait dire, du coup, que les personnes... Comment dire ça ? Que la pression est si forte sur cette notion de virginité qu'elle dépasse même l'interdit de la pénétration anale. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est, en fait, il y a un interdit qui est tellement puissant, qui a été construit autour de ça, qu'il y a, bien sûr, des substrats. C'est-à-dire que les femmes peuvent passer par des fellations qu'elles n'ont pas envie d'avoir, donc qui sont plus ou moins des situations de viol, puisqu'il y a pénétration quand il y a geste oral, parce qu'elles ne veulent pas perdre l'opportunité de se marier avec la personne, mais elles ne veulent pas perdre non plus l'hymen pour la nuit de noces, parce qu'en fait, culturellement, et en termes de dû et coutume, ben, ça ne le fait pas si on ne découvre pas ce fameux test du drap qui est du linge blanc, qui est en fait de moins en moins le cas aujourd'hui, parce que ça évolue beaucoup, mais dans les milieux ruraux, c'est encore beaucoup le cas. Il y a encore une tradition autour de ça. C'est beaucoup plus complexe en termes de sociologie qu'on ne le pense. Mais même au-delà de la question de la pratique, il y a aussi ce business énorme qu'il y a autour de l'hyménoplastie. Comment, en fait, on construit la restauration définitive d'un hymen qui est réalisé en général 3-4 jours précédant la nuit de noces, pour éviter cette honte sociale que serait qu'on découvrirait que, en fait, cet hymen virginal a été perforé par autre chose que ce sexe d'homme pendant la nuit de noces. Et donc, il y a des poches...
Certificat de virginité, quoi, c'est ça.
Oui, des certificats de virginité.
On délivre le certificat de virginité, ou alors on reconstruit. Mais tout ça, encore une fois, ce poids repose principalement sur les femmes, finalement, parce que les hommes peuvent avoir, du coup, la sexualité libérée, ils n'ont pas de poids ou de conséquences vis-à-vis de ça.
Bien évidemment, c'est encore un des énormes travers du patriarcat, c'est de faire peser encore plus que tout ce poids-là, déjà de la sexualité, comment dire, diabolique de ces femmes-là. Ils font peser aussi les risques qui sont encourus, parce qu'un homme typiquement qui, par exemple dans un pays comme le Maroc, ou dans la majorité des pays en terre d'islam, où un homme aurait cette relation sexuelle avec sa femme de manière non protégée et elle tombe enceinte, l'avortement est interdit sous aucun prétexte. Parfois, il l'utilise sous le prétexte de le fœtus a une maladie ou en fait, c'est en cas d'extrême urgence pour la santé de la mère. Mais dans la très grande majorité des cas, les avortements se font de manière clandestine. Au Maroc, il y a 800 avortements clandestins par jour. Parce que les femmes ne peuvent pas avorter. Mais évidemment, la place des pères est nulle, puisqu'en fait, le problème dans tout ça, c'est que l'avortement, ce n'est qu'un signe qu'il y a eu relation sexuelle. Mais comme les relations sexuelles sont interdites par le code pénal, hors mariage, alors elle est preuve qu'il y a eu relation sexuelle, et donc les deux peuvent aller en prison pendant un an. Donc, les hommes, ils prennent la fuite. Donc, il y a évidemment une honte qui, en fait, devrait se rediriger, changer de camp, vers les hommes qui sont aussi responsables de cet acte. Oui.
Mais... parce qu'elles ne sont pas tombées enceintes toutes seules.
Exactement, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Mais aussi, je pense, sans les dédouaner du tout, mais il y a vraiment ce sens de remettre aussi le contexte juridique, légal et politique du pays. Parce que, en fait, ces hommes-là, peut-être qu'ils ne prendraient pas autant la fuite si ce n'était pas interdit. Ni l'avortement et la relation sexuelle. Voilà. Donc, il y a aussi le patriarcat, c'est tout ça. C'est le système. Et la personne en question qui se trouve ici être un homme. Donc, oui, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de conséquences négatives à une sexualité qui est frustrée, à une sexualité qui est culturellement associée à des choses qui n'ont aucun sens comme l'hymen.
Et là, oui, c'est bien de le rappeler aussi. On parle bien sûr des personnes dans le monde arabo-musulman, mais il y a... c'est de la domination masculine, finalement, et ça touche, du coup, plein de pays, et comme tu disais, la France et d'autres pays. Donc, c'est important aussi de le mentionner. Bon, là, on parle quand même d'un aspect plutôt, on va dire, sombre ou négatif de la sexualité des personnes musulmanes et ou arabes. Est-ce que tu aimerais, justement, parce que tu parlais que, justement, dans le monde arabo-musulman et dans certains pays, il y a de l'érotisme, il y a de la séduction, il y a des objets qu'on peut trouver, de la lingerie, des épices, des choses pour, justement, prendre soin de sa sexualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager de positif par rapport à cette sexualité-là ?
En fait, je pense que encore une fois, comme chaque sexualité est relative à la personne qui l'exerce, il y a des différences partout. Bien sûr qu'il y a des sexualités positives, qu'il y a des kamasutras arabes, il y a une érotologie qui est abondante avec d'ailleurs arabe et perse, c'est pas que le monde, il y a le monde musulman, il se résume pas aux personnes arabes encore une fois, et donc il y a vraiment, c'est stupéfiant la quantité de poèmes aussi qu'on peut lire, extrêmement érotiques, extrêmement choquants pour l'époque. On peut lire Le Jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui, il y a Ibn Qayyim Jawziya qui parle de... bref, c'est des penseurs que peu de gens liront, mais il faut quand même savoir qu'ils existent. Il y a vraiment une littérature très très forte autour de ça, donc il y a déjà un écosystème culturel qui a toujours existé. Il a juste été effacé. Parce que même historiquement, il y a eu une invisibilisation des faits autour, par exemple, de la sexualité dans les mariages, mais aussi dans les grandes occasions, par exemple, des sultans, des rois, des reines. C'est des choses qui étaient légion. Les gens couchaient avec tout le monde. Il y avait des espèces... enfin, c'était pas un imaginaire non plus orgiaque comme le voudraient les orientalistes, mais il y avait vraiment une liberté forte avec différents types de strates. Il y avait un homoérotisme incroyable. Il y avait une homosexualité incroyable. En tout cas, vraiment qu'on aille de Rabat au Maroc jusqu'aux confins de l'Ouzbékistan, Afghanistan, jusqu'à vraiment, enfin, il y avait une sorte de liberté qui n'est pas reliée à la modernité occidentale, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui était vraiment reliée à une énorme culture qui reflétait les désirs autorisés dans le cadre musulman. Et moi, je voudrais dire aussi que aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des récits d'horreur par rapport à la sexualité bafouée, frustrée, blessée dans le contexte arabo-musulman, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent très bien leur sexualité libre quand on est une femme cis arabe et qu'on circule dans les rues de Casablanca, on peut très bien avoir une relation toutes les semaines si on veut avec un mec différent. Évidemment, encore une fois, on s'expose à des risques au niveau légal, au niveau du système, la police qui demande qui est la personne dans la voiture avec vous. Enfin, il y a vraiment un contrôle des mœurs en fait qui se passe. C'est ça qui devient impossible. Donc, encore une fois, mais ça existe. Il y a des personnes qui sont, il y a des soirées gays à Beyrouth qui sont des soirées extrêmement libérées. Il y a des cabarets drag à Tunis. Il y a dans les banlieues, il y a de France qui sont dites chaudes et reculées, et des zones de non-France, comme le disent les extrémistes de droite, parce qu'ils sont vraiment extrémistes pour le coup. Ben, il existe aussi des sexualités qui ne sont pas juste autour du cadenassage justement des petites sœurs et de l'enfermement des mères, que tout le reste c'est des putes. Ben non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des sexualités qui sont épanouies, qui sont belles, qui sont flamboyantes, qui ont atteint leur plein potentiel et qui se redécouvrent, qui s'explorent. Et je pense qu'il y a besoin de le dire parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir de personne là-dessus. En tout cas, c'est pas une nation, c'est pas une religion, c'est pas un monde du monde qui a été vraiment naïf et candide face à la sexualité. Au contraire, ça a recelé de ressources. Donc, c'est bien effectivement de le rappeler.
Ouais, merci de le dire. Ça fait du bien de l'entendre aussi et de changer ces imaginaires-là pour les personnes qui ont justement des croyances, des stéréotypes vis-à-vis de ça et qui découvrent peut-être même pour la première fois à travers tes paroles et à travers ton podcast qu'en fait finalement, ah non, il y a plein de choses de possibles. Donc c'est pour ça que ça me semble aussi important qu'on parle aussi quand même de ce qui est, comme c'est la richesse de la sexualité, oui, il y a des côtés sombres et comme pour tout le monde, mais il y a des côtés très joyeux et c'est important de le mentionner.
Et juste un dernier détail, c'est très rapidement, c'est même les personnes musulmanes, oui, vous allez être choqués, peuvent sentir et faire des pratiques BDSM, même les personnes musulmanes peuvent avoir du sexe oral, même les personnes musulmanes peuvent être très 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 kinky, donc être coquines au lit, elles peuvent avoir des jouets sexuels, enfin à partir du moment où il y a du consentement qui règne, à partir du moment où elles s'amusent au lit, encore une fois, c'est une sexualité qui a été encouragée dans ce cadre-là, du consentement mutuel et donc d'un engagement tenu entre les deux partenaires. L'amusement est au rendez-vous. Le poème, le préliminaire, comme, c'est un des mots que je déteste, mais c'est en tout cas des moments qu'il y a, non pas pour le coït pur et simple, bien que ça peut être aussi une sexualité comme une autre, mais en tout cas, il y a ce désir-là qui prend plusieurs formes. La forme olfactive avec le parfum, la forme de la caresse, la forme de se perdre dans l'autre, en fait, du don mutuel, de ne pas penser qu'à sa gueule. Ça, c'est extrêmement important aussi dans les contextes arabo-musulmans.
Génial. Ouais. Et du coup, ma question finale, tu as un petit peu répondu, oui. Mais si les gens, du coup, devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait, selon toi et pour toi ?
Oula. Alors, si je devais répondre en général, je dirais que la chose la plus importante, c'est le consentement. Mm-hmm. S'assurer à chaque fois qu'il est donné, si j'ai bien fait mes devoirs, c'est il est donné librement, il est éclairé, il est enthousiaste, il est spécifique et il est, comment on appelle ça ? Réversible.
Révocable. C'est-à-dire qu'on peut l'arrêter à tout moment. On peut donner son consentement et on peut l'arrêter à tout moment.
On peut dire oui, 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 puis non. Et puis s'arrêter. Voilà. Le consentement, c'est aussi ça, c'est qu'il peut revenir en arrière quand il le faut, quand la personne le veut. Ça, c'est vraiment le, la phrase clé, je pense, c'est vraiment toujours se rappeler du consentement. Mais si je devais répondre par rapport aux populations arabo-musulmanes, je voudrais quand même mettre un point d'honneur au racisme sexuel dont on a parlé tout à l'heure, que les personnes racisées subissent. Je pense qu'il faut retenir ça parce que dans ta communauté qui est déjà assez large, et bravo pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés par l'islam ou par la racisation. Et j'aimerais qu'elles se souviennent de ce que je viens, de ce que je vais dire sur ce racisme sexuel, parce que peut-être qu'elles le font sans le savoir. Il y a donc Frantz Fanon, qui est en gros une référence incroyable pour moi, qui écrivait « Le blanc est persuadé que le nègre est une bête. Si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. » Et j'avais invité Pascal Blanchard, un historien que j'ai reçu dans Jeans, qui explique aussi que les peuples colonisés se sont construits comme des êtres qui ont sexualité bestiale, débridée, sans morale, sans limite, voilà. Que la taille du cul, la taille du pénis, la taille de la vulve sont disproportionnées. Donc, c'est Sarah J. Bartman, la Vénus sur Tintot, etc. Et donc, il y a toujours une sorte de fascination-répulsion. Et c'est marrant parce que François Fanon, il disait aussi, pour nous, celui qui adore les Noirs est aussi malade que celui qui les exècre. Donc, attention à ne pas dire, moi, je ne couche qu'avec des personnes asiatiques, moi, j'adore les beurrettes et sinon rien, moi, j'adore que cette position sexuelle-là avec telle personne parce qu'elle est racisée. Donc, voilà, il y a vraiment une disqualification des personnes. Par exemple, j'ai eu le témoignage d'un homme noir qui se sentait disqualifié parce que son sexe était normal et que, ben, être celui d'un... Quand je dis normal, statistiquement normal, ça veut dire qu'il devait faire 13 cm en érection, comme la moyenne française. Mais... trop normal pour être celui d'un homme noir. Ça le fait souffrir, en fait. C'est pas,
ça crée des complexes. De quelqu'un.
Oui, ça crée des complexes. On ne peut pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'on impute de par une couleur de peau ou une origine ethnique. Ou... Ben voilà. Donc les mecs cis blancs gays ou hétéros qui réduisent une personne uniquement à sa race, c'est une démarche qui est racialisante et essentialisante. Ce n'est pas possible de faire ça aujourd'hui parce que le racisme, c'est physique, c'est sexuel, c'est systémique, mais c'est aussi ce qui efface l'identité. L'individu, il est plus propre en tant que personne, il est abordé sous le prisme du groupe auquel il appartient. Et donc, il faut retenir ça, il est grand temps qu'on remette tous, en fait, femmes comme hommes, comme personnes non-binaires, nos stéréotypes sexuels et qu'on puisse filtrer nos désirs à la lumière du respect, en fait.
Merci, ouais. Et en plus, ça me faisait penser à, en regardant justement sous ce prisme-là du respect, et en fait, c'est aussi s'intéresser à la personne. Finalement,
oui.
Parce qu'on
oui,
ne les sensibilise pas, on se demande juste toi, personne que tu es, voilà, qui est en face de moi, qu'est-ce que tu as envie d'explorer dans la sexualité, qui tu es. On s'interroge et on est curieux par rapport à la personne-là, cette personne-là, plutôt que de mettre des, comme tu disais, des clichés, des images qui sont complètement racisées, qui font du mal en fait finalement.
Tout à fait, parce qu'au lit, on retrouve très souvent les stéréotypes qu'on a sur une personne qui est en situation de handicap, une personne qui est arabe, une personne qui est... Enfin, c'est pas toujours la même chose. Il y a des personnes en situation de handicap qui se disent « Mais pourquoi, quand elle couche avec moi, j'ai l'impression que c'est mon infirmière en fait ?» Pourquoi, quand lui couche avec moi, ben, en fait, il est focalisé sur mon pénis parce que je suis noir. Pourquoi elle, en fait, quand elle me parle, pourtant on est dans un rapport lesbien toutes les deux, quand elle me parle, elle n'arrête pas de me, voilà, de m'imaginer, voilà, dans des postures luxuriantes, un peu comme des odalisques orientales où je lui donnerai des grappes de raisin dans la bouche et puis c'est mon fantasme, quoi. Et en fait, c'est malheureusement, ça n'a pas de frontières que on soit dans les milieux LGBT+ ou dans les milieux cis hétéro blancs. Il y a ce racisme sexuel, il n'a pas de frontières. Il est vraiment très présent et je pense qu'il faut effacer ça le plus vite possible parce que c'est vraiment l'urgence pour moi à dire à tout le monde, c'est ne retenez pas des choses de l'autre personne sans connaître la personne, n'effacez pas son identité.
Merci pour ton message, Jamal, et je suis très ravie du coup que tu sois là sur le podcast pour le diffuser et que justement, comme tu disais aussi justement, que mon audience puisse l'entendre et que d'autres personnes puissent réfléchir par rapport à ça. Donc c'est très très important. Jamal, on invite évidemment les personnes à écouter Jeans si ce n'est pas fait, à s'abonner. Il y a quoi, 2 saisons déjà ou plus?
Oui, exactement, 2 saisons et ça continue. Là, On fait des live jeans à l'Institut du Monde Arabe à Paris, donc en enregistrement public. Donc
vous êtes invité. Je mettrai les liens pour les personnes qui sont intéressées pour venir t'écouter, écouter les intervenants en live. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, avoir des informations justement sur Jeans?
Bah, majoritairement sur la page Instagram de Jeans, donc @jeans_podcast. Vous trouvez toute l'actualité. Les références bibliographiques, filmographiques, tous les épisodes, bien sûr, des contenus intéressants. Voilà.
Oh, super, bah, je mettrai tout ça encore une fois dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Jamal. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite.
Merci à toi, Camille. Merci.
Quel épisode. Vous l'aurez compris, je suis fan de Jeans Podcast. Donc, je vous invite vivement à aller l'écouter sur justement la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Si vous êtes aussi fan de ce podcast de Camille Parle Sexe, dites-le avec des étoiles, avec des avis sur votre plateforme d'écoute ou même en DM sur Camille Parle Sexe. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire vos retours, de lire vos suggestions. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et avant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. Bonne soirée, bonne journée ou bon après-midi. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.